Voilà, je me présente rapidement. Je m'appelle Yves Bosson, je suis photographe iconographe et je dirige une petite photothèque qui s'appelle l'Agence Martienne, qui est très spécialisée sur l'imaginaire scientifique, la science-fiction. Et avec mon co-auteur Farid Abdelwahab, nous avons publié l'année passée chez Flammarion un dictionnaire visuel des mondes extraterrestres, un ouvrage avec plus de 300 photographies. Et vous aurez l'occasion tout à l'heure, dans le cadre de ce diaporama, que j'aurai le plaisir de vous présenter, de voir un certain nombre de ces illustrations. Mais dans un premier temps, pour lancer le sujet, je vous propose en fait d'assister à la projection d'un petit film qui s'intitule Classification systématique du vivant extraterrestre. Vous verrez, c'est un petit film drôle, intelligent, pour tout dire complètement déjanté, et qui aura le mérite en fait d'introduire le sujet. Voilà, c'est parti.
Could there be life similar to our own on other planets? Is it not possible that atmospheric conditions of relative environments control their shapes and forms? If so, would they be giants? Could their intellect have reached a scientific level far above man's dreams? What then will the future reveal?
On connaît bien nos amis extraterrestres parce qu'ils sont nos voisins galactiques, ou parce qu'on en a beaucoup parlé dans nos livres depuis un siècle, ou parce qu'ils sont venus nous voir, ou parce qu'ils ont amené certains d'entre nous chez eux. Chaque jour, on en découvre de nouvelles espèces. Des grands, des petits, des rouges, des verts, des poilus, des visqueux, bref, on ne s'y retrouve plus, il est temps de mettre un peu d'ordre. Voici donc la première classification systématique du vivant extraterrestre. Les extraterrestres se divisent en deux grands groupes. Les morphes qui ont une forme et les amorphes qui n'en ont pas. Passons vite sur cette dernière catégorie dont tous les représentants sont invertébrés, azoaires, asexués, sans caractéristiques particulières, bref, très difficiles à classifier. Voir avec le sous-embranchement des invisibles qu'on ne distingue les uns des autres que grâce aux différents accessoires qu'ils veulent bien manipuler. Plus courant et plus facilement observable, les extraterrestres morphologiquement déterminés possèdent des organes qui permettent, et c'est l'essentiel, de les ranger dans des catégories scientifiques. On distingue ceux qu'on appelle les anthropomorphes parce qu'ils ressemblent aux humains qui habitent la planète Terre, les zoomorphes parce qu'ils ressemblent aux animaux qui habitent la planète Terre, et les n'importe quoi morphes qui ne ressemblent à rien et qui résistent à l'analyse scientifique. Parmi les zoomorphes, il existe toutes sortes d'espèces rappelant plus ou moins les animaux terrestres, avec une surreprésentation des insectoïdes, des reptiliens, des crustacés et des mollusques. C'est parmi eux qu'on trouve la sous-classe des tentaculaires organico-métalliques qui a eu son heure de gloire dans les années 1900 vu qu'elle a carrément failli dominer la Terre. Il s'en est fallu de peu. Si un certain Herbert George Wells n'avait pas trouvé un dénouement heureux à cette histoire, on était cuit. C'est que les zoomorphes ont la particularité curieuse de développer dans 100% des espèces connues une agressivité haineuse et inconditionnelle à l'égard d'Homo sapiens. Les crustacés semblent parmi les plus agressifs. Avec les dinosauriens, espèces robustes aux mensurations impressionnantes et qui semblent nourrir une haine particulière contre les immeubles de Tokyo. Alors que l'insectoïde et le tentaculaire, quant à eux, préfèrent s'en prendre à Washington. Mais les extraterrestres les plus nombreux et les plus célèbres appartiennent à l'embranchement des humanoïdes. Stupéfiante coïncidence, l'immense majorité des extraterrestres connus a une forme grosso modo humaine.
He seems like one of us.
Dans l'embranchement des humanoïdes, on distingue ceux qui ressemblent un peu aux humains, ceux qui ressemblent beaucoup et ceux qui ressemblent passionnément. Les premiers sont principalement représentés par la classe des hybrides. Pour faire un hybride, vous prenez une base de bipèdes, deux membres inférieurs destinés à pratiquer la bipédie et vous mélangez avec diverses espèces généralement répugnantes avec ou sans bout de métal. Vous ajoutez tout ce que vous voulez, des membres supérieurs, en général également par paire, une ou plusieurs têtes munies d'organes diversement placés, parmi lesquels des yeux, des tentacules, des oreilles, des tentacules, quelques antennes et des tentacules. L'immense variété de la famille des hybrides offre un véritable festival de créatures bipèdes, une zooparade, une biopride. Molluscoïdes à tentacules, à ventouses, insectoïdes à pattes, à ailes, à carapaces, à antennes, technoïdes à membres mécaniques, à blindage, à cadrans électroniques, sans oublier des espèces difficilement descriptibles comme ce martien de 1924, dont les grandes oreilles sont indispensables pour capter les ondes sonores dans une atmosphère raréfiée. Car la grande majorité de ces espèces présentent elles aussi, allez savoir pourquoi, un comportement belliqueux, susceptible, atrabilaire, en un mot, pas fréquentable. La plupart développent aussi la curieuse propension à s'intéresser de préférence, avec une rigueur toute scientifique, aux Homo sapiens de sexe féminin. La situation inverse, l'enlèvement d'une jeune et séduisante extraterrestre par un être humain, est beaucoup plus rare. C'est dans la famille des hybrides que l'on trouve la sous-classe des baveux, ordre des mâchoires rétractiles, qui ne peut se reproduire qu'à l'aide d'Homo sapiens femelles, dont le prénom est Sigourney. Passons à la classe des extraterrestres anthropomorphes qui ressemblent beaucoup aux humains, les humanoïdes humanoïformes ou proto-humains. C'est dans cet embranchement que se situe la quasi-totalité des espèces d'humeur bienveillante. Et donc c'est exclusivement à ces dernières qu'appartiennent les extraterrestres que quelques Homo sapiens ont eu l'immense privilège de fréquenter lors de rencontres du troisième type. On ne peut que s'en féliciter car ne serait-ce que pour serrer la main, il est bien plus pratique d'en avoir une à sa disposition.
Serre-moi la main.
La classification des proto-humains se base sur une combinaison de facteurs de taille et de couleur. Passons rapidement sur les grands blancs, êtres luminescents et de grande taille, supérieurement intelligents mais fragiles et dépourvus de sexualité, ils sont en voie de disparition. Ne nous attardons pas non plus sur les petits rouges qui ont eu une éphémère notoriété avant d'être balayés par une autre espèce particulièrement envahissante. Dans les années 50, les exoprimates microtypes à pigmentation chlorophyllienne, autrement appelés petits hommes verts, ont brutalement proliféré et sont devenus des habitués du tourisme terrien. Comme ils utilisaient le mode de propulsion extraterrestre le plus répandu, la soucoupe volante, ces années-là connurent un pic de fréquentation dans le ciel occidental. Par une amusante coïncidence, c'est dans ces mêmes années que le monde communiste menaçait d'envoyer ses aéronefs sur le monde libre. Ce soudain embouteillage des cieux terriens provoqua nombre d'accidents dont la presse de l'époque s'est largement fait l'écho. Lors de l'un de ces accidents, survenu près de la ville de Roswell au Nouveau-Mexique, une de ces soucoupes livra son contenu. Une créature non pas verte, mais grise. L'autopsie pratiquée ne donna pas le résultat de l'alcotest. D'autres cousins à pigmentation grise mais au caractère franchement détestable ont un moment fait parler d'eux sous le nom de petits gris, avec leur sale manie d'envahir la terre en douce. A l'inverse, la sous-famille des gris marronas, apparue en pleine vogue du New Age, brûle d'établir avec l'homme un dialogue constructif et enrichissant. C'est parmi elles que se trouve le plus célèbre et le plus sympathique des extraterrestres, celui qui a converti l'humanité au téléphone portable sous le slogan encore inégalé de «
Des téléphones maison ».
Par contre, son modèle de lampe de poche au bout de l'index a fait un bide. Enfin, dernière catégorie, les extraterrestres à taille humaine, à figure humaine. Alors souvent, quelques détails permettent de reconnaître l'habitant d'une autre planète. Ses oreilles primesautières, une arthrose chronique de l'auriculaire ou des verres de contact fantaisie en balles de ping-pong recyclées.
They will spread to every continent and devour every living thing on the surface of the earth.
Mais parfois, le mimétisme humain lié à l'étroitesse du budget de la production pousse à l'extrême la ténuité du dimorphisme.
I am from another planet.
Dans ces familles-là, il ne reste souvent que le costume pour parvenir à les classer. En matière de stylisme extraterrestre, il existe deux grandes tendances. La combinaison moulante et la toge néoclassique.
We come from a world called Zaz.
Les porteurs de toge disposent d'une technologie évoluée, entièrement à base de champs de force, de cristal de roche et de coupes à champagne bricolées. Ceux-là ont atteint une puissance illimitée, ce qui n'empêche pas les états d'âme.
But I'm deeply plagued with regret when I'm forced to destroy.
Les porteurs de combinaisons moulantes n'ont rien à leur envier pour ce qui est de l'avance technologique. Mais leurs coupes de cheveux ne sont pas très tendances et ils souffrent d'un singulier manque de savoir-vivre.
Well, hello.
You are alone?
Mais malgré les efforts des chercheurs, seule une toute petite partie de la faune extraterrestre est actuellement connue. Les taxinomistes de demain ne manqueront pas de travail au cours des prochaines années. D'autant plus que l'ITI d'aujourd'hui est de plus en plus sophistiqué, souvent tout en 3D. Quelles nouvelles espèces venues d'outre-espace nous visiteront dans les années 2010? On aurait tant envie de répondre une vraie, pour changer.
Voilà. Donc, on l'a vu, comme on vient de le voir, lorsqu'on parle d'extraterrestres, on associe souvent l'image de l'extraterrestre à la science-fiction, à la modernité, ou éventuellement à une future possible découverte scientifique majeure. Vous savez qu'on découvre, il ne se passe pas une semaine, voire une journée, sans qu'on ne découvre actuellement une nouvelle exoplanète, une planète en dehors du système solaire, qui gravite autour d'une autre étoile que le Soleil. Et... par contre, on n'a pas idée que, en fait, le thème des extraterrestres est extrêmement ancien, puisqu'il date, les origines en fait de cette idée-là datent de 2500 ans. C'est dans la Grèce antique que l'on peut trouver les origines de cette notion d'extraterrestre. Alors évidemment, à l'époque, on ne parlait pas encore d'extraterrestre. Le terme en usage, c'était celui de la pluralité des mondes. On parlait de pluralité des mondes habités. Et donc ce que je voudrais, au cours de ce petit diaporama, vous présenter, c'est déjà cette idée sur le fait que les extraterrestres ont déjà une très longue histoire. La deuxième chose, c'est de vous montrer comment, en fait, le 19e siècle a véritablement inventé l'extraterrestre sous sa forme moderne, en tout cas sous forme iconographique. Et puis, la dernière partie, ce sera une partie un peu plus récréative, où vous verrez différents exemples de représentations de l'extraterrestre tout au cours du 20e siècle, pour montrer un petit peu leur évolution. Voilà. Donc en fait, on l'a dit, tout démarre au 5e siècle avant notre ère, dans la Grèce antique, avec l'atomisme. C'est le philosophe Démocrite qui va instaurer les principes de l'atomisme. Pour les atomistes, le monde était constitué d'atomes et de vide. Les atomes, qui étaient considérés comme des particules insécables et invisibles, et le vide qui permettait aux atomes de s'entrechoquer, d'interagir entre eux et ainsi de constituer la matière. Les atomistes avaient instauré un autre principe qui est le principe de causalité. Vous savez, lorsque vous avez les mêmes effets, généralement produisent les mêmes causes produisent plutôt les mêmes effets. Eh bien, cela donne que les mêmes causes, à savoir l'agitation des atomes, doivent ailleurs produire les mêmes effets que ceux constatés ici-bas, c'est-à-dire la création de la matière et donc la constitution d'autres mondes. Pour les atomistes grecs, d'autres mondes étaient possibles en plus de celui-ci. Épicure ira plus loin, au 4e, au 3e siècle, il dira qu'il n'existe nul obstacle à un nombre infini de mondes. Et enfin, Lucrèce, au 1er siècle avant notre ère, écrira dans De Natura Rerum, de la nature des choses, il vous faudra reconnaître qu'il existe d'autres mondes dans d'autres régions et des races d'hommes et des générations de bêtes sauvages différentes. Donc vous voyez que déjà au 1er siècle avant notre ère, on a l'idée d'une pluralité de mondes, d'une infinité de mondes, et en plus ces mondes sont habités. C'est vraiment là l'origine du concept de pluralité des mondes, donc, dont on parle maintenant dans ces derniers prolongements pratiquement tous les jours, puisqu'on découvre des exoplanètes tous les jours. Voilà. Alors ensuite, il faut dire que l'atomisme sera en fait complètement éclipsé par une autre cosmologie, une autre représentation du monde qui s'appelle l'aristotélisme et qui est un petit peu à l'opposé de l'atomisme. Alors c'est en fait Aristote au IVe siècle, qui est l'élève de Platon, qui va élaborer cette cosmologie qui est basée sur le doux principe, le principe du mouvement naturel et le principe du lieu naturel. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, Aristote disait que les éléments les plus lourds, c'est-à-dire l'eau et la terre, devaient naturellement se diriger vers le centre du monde, lequel, tant qu'à faire, correspondait avec le centre de la Terre. En fait, ils y tombaient. La force de gravitation, évidemment, n'avait pas été découverte. Donc les éléments lourds tombaient, se dirigeaient naturellement vers le lieu naturel qui est le centre du monde, le centre de la Terre, alors que, à l'opposé, les éléments les plus légers, c'est-à-dire l'air et le feu, s'en éloignaient pour atteindre les régions au-delà supralunaires, au-delà de la Lune, confinées en fait par, vous le voyez, le cercle des étoiles fixes qui constituait, qui formait, qui délimitait un monde clos. Voilà. Donc on comprend que c'est une cosmologie qui est en fait empirique. On voit bien que la fumée ou le feu a tendance à s'élever, que quand on lâche un objet lourd, il tombe. Et en plus, une cosmologie empirique, puisqu'on voit bien également le Soleil qui donne l'apparence, vu de la Terre, de tourner autour de la Terre. Alors ces deux cosmologies, l'atomisme et l'aristotélisme, en fait, sont complètement à l'opposé, je le disais. On l'a vu, l'atomisme permet, propose l'existence de différents mondes, alors qu'au contraire, l'aristotélisme exclut complètement la possibilité d'un autre monde. Et est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez une idée pourquoi les raisons pour lesquelles l'aristotélisme exclut la possibilité d'un seul autre monde en dehors d'une autre? Vous avez une idée? Si un autre monde existait dans la perspective d'Aristote, il aurait été forcément, fatalement, plus lourd que l'air, et donc il aurait forcément, il se serait dirigé naturellement vers la Terre, vers notre monde. Il serait dirigé vers nous, et on peut imaginer une collision, la fin du monde. Donc si nous sommes toujours là, c'est que, dans l'optique d'Aristote, notre monde est seul et unique. Voilà. Une autre différence entre l'atomisme et l'aristotélisme, c'est que l'aristotélisme est un monde, avec ce monde seul et unique, convient, on ne peut mieux, à la religion, c'est-à-dire qu'on a un seul monde, et lequel convient à un seul Dieu, à une seule révélation. Alors que, à l'inverse, l'atomisme, dans la mesure où le monde est créé par la rencontre fortuite d'atomes et de vide, eh bien, n'a pas besoin de Dieu, n'a pas besoin d'un dessein divin. Alors, on voit bien que l'aristotélisme, en fait, avec cette idée d'un monde unique, ne permet pas, par exemple, à un film comme Avatar d'exister. Dans un monde, si notre monde était toujours aristotélicien, Avatar n'aurait pas été possible. Voilà, pour prendre un grand raccourci. Reste que l'aristotélisme, en fait, va éclipser pendant 15 siècles, jusqu'à la Renaissance, va complètement éclipser cette idée de pluralité des mondes. Il faudra attendre, c'est la dernière image en bas à droite, il faudra attendre Copernic pour avoir l'idée d'un monde, en fait, dont la Terre n'est plus le centre. Vous voyez, le Soleil remplace enfin, au bout de 15 siècles, la Terre au centre du monde. Et alors, en faisant cela, Copernic, en 1543, en plaçant, en rétrogradant en quelque sorte la Terre dans la catégorie inférieure, celle des planètes, lui-même ne dit rien sur la pluralité des mondes, il ne se prononce pas, mais en faisant cela, en rétrogradant la Terre dans la catégorie inférieure, il laisse évidemment la porte grande ouverte aux pluralistes les plus convaincus, lesquels vont continuer le raisonnement de Copernic, et en disant, eh bien, si la Terre est un monde, est une planète comme les autres, alors les autres planètes sont peut-être elles aussi des terres, et des terres habitées ou habitables. Par contre, vous voyez que dans le monde de Copernic, on a toujours un monde qui est clos, qui est délimité par la sphère des étoiles fixes. Il faudra attendre, en fait, Thomas Digos en 1576 pour que, enfin, ce cercle des étoiles fixes éclate complètement. Désormais, les planètes, les étoiles vont envahir tout l'espace à leur disposition. On a pour la première fois une notion d'infini que, quelques années après, Giordano Bruno va confirmer, puisqu'il dit que l'univers est infiniment infini. Donc là, on a de nouveau un monde qui est ouvert et qui va permettre d'être peuplé par des corps célestes autres que la Terre. Au XVIIe siècle, pour la première fois, on aura une observation instrumentale du système solaire. C'est en 1609 que Galilée va pointer un télescope, une lunette astronomique plus exactement, vers la Lune. Et pour la première fois, on va voir de près un objet extraterrestre. La Lune est le premier objet extraterrestre qui va être observé par Galilée. Il va voir que, en fait, c'est un corps qui est semblable à la Terre, c'est-à-dire qu'on y voit des montagnes, on y voit ce qui apparaît comme étant des mers, et ça n'est plus le corps d'Aristote, différent de nature, différent de la Terre. On a des corps qui sont extrêmement semblables. Et tout au cours, en fait, du XVIIe siècle, la Lune va, diriger une force d'attraction vers les esprits. Ce sera véritablement le siècle de la Lune, et un certain nombre d'auteurs, vous voyez sur ces images, Francis Godwin par exemple, va imaginer un voyage grâce à un moyen de locomotion complètement improbable, hein, puisqu'il fixe son héros grâce à un harnais, il est fixé à un système qui est emporté par des oies sauvages, et il parvient grâce à ce voyage imaginaire sur la Lune. Pareil, Cyrano de Bergerac parviendra, alors lui, le moyen de déplacement choisi est tout à fait différent. Il s'agit d'une ceinture à fioles. Les petites fioles, les petites bouteilles sont remplies de rosée. Et la rosée, en s'évaporant sous l'action du soleil, permet aux voyageurs d'atteindre la Lune. Et donc, on a une série comme ça de voyages imaginaires vers la Lune, dont, en fait, le voyage n'est qu'un prétexte. L'idée, c'est de décrire, comme le fera également Kepler, par exemple, dans le songe de Kepler, de décrire une astronomie qui est une astronomie, en fait, lunaire. Il va décrire l'astronomie qui serait celle d'un observateur qui serait placé sur la Lune, et lequel verrait donc des éclipses dues à la Terre. Il verrait des marées également dû à la Terre. Donc c'est pour montrer l'essentielle similarité entre la Terre et la Lune que ces récits, ces voyages imaginaires sur la Lune vont être publiés. Voilà. Et puis, toujours au cours du XVIIe siècle, en 1686, Fontenelle n'a que 29 ans lorsqu'il fait paraître la première édition des Entretiens sur la pluralité des mondes. Et alors là, l'intérêt de ce livre, c'est en fait cette gravure, cette magnifique gravure que vous voyez, qui est insérée dans les une gravure dépliante, qui est insérée dans les éditions des Entretiens. Et là, alors vous voyez le système solaire, le Soleil au centre, le système solaire avec les planètes, toutes les planètes connues à l'époque, qui allaient donc jusqu'à Saturne, c'était la dernière planète connue. Saturne qui est en fait un peu au milieu à gauche, avec ses satellites. Et le système solaire, donc au centre, est entouré d'une multitude d'étoiles. Et alors, la grande nouveauté, c'est que ces étoiles comportent, pour nous évidemment, ça n'est que extrêmement banal, mais c'était pour la première fois qu'on représentait de manière totalement explicite des exoplanètes. Tous ces soleils comportent une ou plusieurs exoplanètes, par exemple, au milieu à droite. Vous avez une étoile avec trois exoplanètes. Donc là, à la fin du XVIIe siècle, pour la toute première fois, on a une représentation visuelle des exoplanètes qu'on découvrira 309 ans plus tard, en 1995 seulement. Donc la science mettra 309 ans pour confirmer l'intuition, notamment de Fontenelle. Voilà. Et alors là, ça n'est plus simplement la similarité entre la Terre et la Lune, évidemment, mais c'est l'essentielle similarité entre notre système solaire et d'autres systèmes stellaires, en fait, qui est mise en avant par Fontenelle dans ses entretiens. Alors, les entretiens, c'est une série de causeries galantes sous le ciel étoilé avec Madame la Marquise, qui est l'occasion de faire l'état des connaissances astronomiques de l'époque et, bien sûr, d'appuyer sur cette idée de pluralité en montrant pour la première fois, donc, des exoplanètes. Désormais, les extraterrestres, on leur a créé tout un espace et ils vont progressivement occuper tout le champ qu'on leur a, tout l'espace qu'on leur a créé. Au siècle suivant, au XVIIIe siècle, alors, comme on l'a vu, l'exploration imaginaire de l'espace avait déjà commencé, alors même que l'exploration réelle de la Terre n'était pas terminée. Il y avait un certain nombre de ce qu'on appelle des terra incognita, des régions inconnues sur le globe, en Afrique, dans le Pacifique, dans les terres australes, qui n'étaient pas complètement explorées ou inexplorées, tant et si bien qu'on pouvait, à l'époque, imaginer des êtres humains, des nouvelles espèces humaines imaginaires, à gauche, en bas, des hommes singes, des hommes sauvages, et puis à droite, en haut à gauche, on a une espèce humaine inconnue, imaginée, qui se trouve être volante, une espèce humaine volante. Il faut bien comprendre que, encore une fois, au XVIIIe siècle, la Terre n'était pas explorée, et on connaissait moins la Terre à l'époque qu'on ne connaît aujourd'hui, par exemple, la planète Mars. Ça nous paraît inconcevable, mais c'était le cas. Et donc, il y avait cette possibilité d'imaginer des créatures humaines différentes des nôtres. Ce qui est intéressant également, ce qui est assez drôle, c'est de voir qu'une des dernières espèces humaines imaginées sur Terre est une espèce volante. Et vous allez voir maintenant que la toute première espèce extraterrestre qui va être imaginée sous la forme d'une représentation iconographique, eh bien, est également une espèce ailée. Et vous voyez en plus qu'elles sont dans des configurations assez semblables, jambes repliées, bras au ciel. Il y a vraiment une étrange coïncidence à relever. Voilà. Là, on est au XIXe siècle. Le XIXe siècle, j'ai dit tout à l'heure, c'est le siècle qui va inventer l'extraterrestre sous sa forme moderne. Là, c'est un petit peu les préludes, les prémices. Et on a, au cours d'une affaire qui va défrayer la chronique en 1835, on a un journaliste, Richard Adams Locke, que vous voyez, qui est passionné par l'astronomie et qui voulait, en fait, se moquer d'un... Il voulait ridiculiser un certain nombre d'astronomes à l'époque qui pensaient avoir découvert des traces d'habitants et même d'habitations sur la surface lunaire. Donc il avait voulu les ridiculiser et il a renchéri en publiant différents articles où il était signalé la découverte grâce à un super télescope géant d'une faune, d'une flore et donc de différentes espèces des sélénites volants, différentes espèces extraterrestres. Là encore, le mot extraterrestre n'existait pas encore. On parlait d'homme volant, de Vespertilio Homo, baptisé d'un terme latin qui voulait dire simplement homme chauve-souris. Donc là, c'est la toute première représentation d'extraterrestre sur cette image. Et puis, les choses vont se préciser très vite. 3 ans plus tard, on a un Français, Pierre Boitard, un naturaliste, qui va publier une série d'articles dans le Musée des Familles, qui est un journal chrétien d'éducation, une série d'articles, là aussi pour faire état des connaissances astronomiques de l'époque. Et puis, il va imaginer, en fait, pour vulgariser l'astronomie, il va imaginer une tournée des planètes du système solaire. C'est la première fois que cette tournée des planètes va s'accompagner de représentations de chacun des habitants de ces planètes. Et on a droit, selon les planètes, à des extraterrestres, vous le voyez à droite, qui sont plutôt des hommes primitifs ou des hommes sauvages, alors qu'à l'inverse, tout à fait à gauche, on a une représentation d'un extraterrestre macrocéphale avec une grosse tête et dont on peut imaginer qu'il est beaucoup plus intelligent que l'homme. Et avec cette image, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on a 2 éléments qui sont propres au XIXe siècle, qui sont le colonialisme et l'évolutionnisme, qui vont faire leur apparition dans le débat sur la pluralité. Le colonialisme, en fait, donne simplement un modèle de déplacement. On peut dire que cette tournée des planètes est un petit peu à l'image de la tournée des colonies. C'est simplement la tournée des colonies sur Terre qui glisse dans l'espace, qui est transposée dans l'espace. Quant à l'évolutionnisme, là on était entre Lamarck et Darwin, qui ont montré comment, c'était les premières idées sur l'évolutionnisme, comment sur Terre, les différentes espèces animales se sont adaptées à leur milieu, ont évolué par rapport à leur milieu. Et tout d'un coup, on fait la transposition dans l'espace de l'évolutionnisme et on pense que l'évolutionnisme peut très bien également s'adapter sur d'autres planètes. Et donc, on a cette description d'extraterrestres qui ont évolué différemment selon les planètes sur lesquelles elles se situent en fonction de leur milieu. Vous avez à l'image, à la fois, en même temps, à droite, le passé et à gauche, le futur de l'homme, qui se rejoignent finalement aux deux extrémités de l'échelle évolutionniste. Et donc, on a vraiment là quelque chose de tout à fait nouveau, tout à fait novateur. Avec l'évolutionnisme donc, qui fait son entrée dans le débat sur la pluralité, on a pour la première fois le facteur temps qui fait son apparition dans le débat. Ça n'est plus simplement un voyage dans l'espace qui nous est proposé, mais vous l'avez vu également, un voyage dans le temps. Donc le facteur temps avec l'évolutionnisme va profondément transformer en fait le débat sur la pluralité. L'imaginaire, évidemment, va se nourrir de cette idée d'évolutionnisme, et c'est pour ça que vous avez Avatar, c'est pour ça que sur Avatar, par exemple, les êtres vivants ont évolué d'une façon particulière, que ce soit la faune, la flore, voilà. Ensuite, comment ne pas parler de pluralité des mondes sans évoquer Flammarion, le grand astronome et vulgarisateur français. Considérait en fait que la planète Mars était habitée par des espèces aériennes, également volantes. Et alors là aussi, on voit que l'évolutionnisme en fait influence, vous le voyez à l'image, la situation, le développement de la faune, puisque tout est aérien. De par le fait que la planète Mars est plus petite que la Terre, la gravitation y est plus faible, et comme la gravitation y est plus faible, eh bien, les différentes espèces végétales et animales se sont développées de manière plus aérienne, volante, et même, vous voyez, même la géologie, en fait, représentée dans un des nombreux ouvrages sur cette gravure, donc qui figure dans l'un des nombreux ouvrages de Flammarion, est représentée de manière extrêmement aérienne. Et on peut dire que le 19e siècle, si le 17e avait été celui de la Lune, le 19e sera incontestablement le siècle de Mars. Les astronomes, avec leurs télescopes, vont même penser découvrir, c'est une illusion d'optique, ils vont penser découvrir des canaux martiens, des canaux que les martiens auraient fabriqués sur la planète pour en fait conduire l'eau des pôles vers les régions équatoriales d'une planète qui était considérée en voie de désertification. En fait, c'était une illusion d'optique qui était engendrée par des moyens d'observation qui n'étaient pas les plus performants de l'époque. Les plus grands télescopes ne permettaient pas de voir les canaux, mais il y a toute une mythologie qui s'est mise en place. On a non seulement peuplé la planète Mars, mais on a également imaginé que les Martiens se livraient au même moment où sur Terre on construisait le canal de Suez et le canal de Panama, les Martiens en fait avaient déjà construit plusieurs centaines de canaux sur leur planète. Et alors d'autres ouvrages, c'est l'époque des voyages extraordinaires, et d'autres romans d'aventure vont imaginer également une tournée des planètes, d'autres tournées des planètes où les héros vont passer de planète en planète avec des moyens de locomotion qui n'ont absolument aucune importance. Ça peut être à dos d'aérolite, par exemple. Mais en tout cas, ce sera l'occasion de vérifier in situ, sur place, eh bien, que les planètes sont habitées et que, par exemple ici, que les Martiens sont bien ailés. Alors voilà de charmantes images destinées à la jeunesse. On a vu dans le petit film tout à l'heure qu'en fait, il y avait parfois très peu de différence entre les extraterrestres et nous. Eh bien, c'est le cas ici. Il y a quelques menues différences qui nous permettent de nous différencier des sélénites, puisque là, on est sur la Lune. Et puis, voici La guerre des mondes. Alors, La guerre des mondes, c'est un ouvrage que tout le monde connaît ou que tout le monde croit connaître, mais en fait, un ouvrage qui est extrêmement mal connu de par les interprétations hollywoodiennes qui en ont été faites. Pour la première fois, en 1898, le sens de la visite s'inverse. C'est-à-dire que ce n'est plus nous qui allons visiter les autres planètes, mais c'est eux qui viennent chez nous. C'est les Martiens qui débarquent sur Terre dans la campagne britannique à la recherche de nouvelles ressources alimentaires, en l'occurrence le sang des humains. Et contrairement donc à ce qu'on pourrait penser, l'invasion n'est pas le thème principal du roman d'Herbert George Wells. En fait, la clé est fournie par Wells lui-même dans la description du Martien. On l'a vu tout à l'heure, le Martien en fait est réduit à une tête énorme. C'est un individu qui n'a plus qu'une seule tête, prolongée par quelques bras tentaculaires, et il a en fait délocalisé tout son système locomoteur, il n'a plus de jambes. C'est en fait le tripode martien, vous le voyez à gauche, qui se déplace à sa place. Il a externalisé donc le système locomoteur, il a externalisé son appareil sexuel, il a externalisé son appareil digestif, puisqu'il se nourrit du sang des humains. Bref, Wells veut dire par là, en fait, que le martien, son martien, est à l'image de l'homme arrivé au stade ultime de son évolution. Wells a été lui-même très influencé par Darwin, par l'évolutionnisme, et il nous décrit ici un martien, en fait, qui serait en fait à l'image d'un homme parvenu au stade ultime de l'évolution, où il n'est composé plus que d'un seul cerveau, et tout ce qui est moins important, en fait, dans sa biologie, il l'a externalisé, il l'a évacué. Et puis, il y a une autre idée maîtresse dans cet ouvrage de Wells. Non seulement c'est l'homme du futur et l'idée d'évolutionnisme, mais on a également, comme tout à l'heure chez Pierre Boitard, l'idée de colonialisme qui intervient chez Wells, puisque en fait, cette idée d'invasion des Martiens qui viennent nous envahir et nous exterminer, c'est une métaphore en fait de l'homme blanc, du colon britannique, qui, et c'est l'exemple que donne Wells lui-même dans son roman, qui a exterminé les Tasmaniens, vous savez, c'est cette île au sud de l'Australie. Quand les colons britanniques sont arrivés, eh bien, ils ont exterminé en moins de 50 ans tous les habitants, tous les autochtones. Et donc, Wells conclut en disant « Comment condamner le martien sans se condamner nous-mêmes ?» Et donc, on a en fait un auteur, un Wells, qui s'affiche comme étant anticolonialiste, comme étant également humaniste et visionnaire dans cette œuvre majeure sur l'idée de pluralité, qui va donc confirmer les intuitions de Pierre Boitard, qu'on a vu tout à l'heure, sur l'idée du colonialisme et de l'évolutionnisme. Voilà. Et puis maintenant, donc, c'est le XXe siècle, une partie un petit peu plus récréative. On va voir un certain nombre d'exemples. Alors, vous voyez ici un martien en 1924. Eh bien, ce martien, lui-même, a suivi l'évolution propre à sa planète. On voit que, tout à l'heure dans le film, il était montré qu'il avait développé des immenses oreilles, des pavillons auditifs extrêmement grands. Eh bien, c'était tout simplement, effectivement, dans une atmosphère raréfiée. On sait que Mars possède une atmosphère très ténue. Et donc, les ondes sonores se déplacent dans l'air. Et pas dans le vide, dans l'air. Et donc, si l'air est très ténu, eh bien, on imagine que les ondes sonores ont quelques difficultés pour parvenir, pour se déplacer, et que donc, pour compenser ce phénomène, le martien a développé des pavillons auditifs exceptionnellement grands. De la même manière, il a une cage thoracique qui est en fait surdéveloppée. Pourquoi ? Ben, tout simplement pour la même raison, pour développer des poumons géants qui sont seuls capables de parvenir à capter un oxygène dans une atmosphère également raréfiée. Voilà. Il est doté, il fait froid sur Mars, donc pour compenser, le martien a développé un nez et puis des yeux qui sont rétractiles. Par période de grand froid, il les rétracte. Voilà. Donc là aussi, l'idée d'évolutionnisme continue en fait de faire son chemin dans nos représentations des extraterrestres. Et en fait, ce martien est en quelque sorte un proto-martien. Il sera 15 ans plus tard affiné par le même auteur, qui s'appelle, le même illustrateur, qui s'appelle Frank Herpol, qui a illustré une quantité impressionnante de magazines populaires de science-fiction qu'on appelle les pulps. Et là, en 1939, il a affiné sa description du martien. Elle est même accompagnée, en fait, d'une fiche technique. Et vous voyez que, par exemple, l'arme du martien a évolué, son équipement a évolué. Les pieds palmés qu'il avait se sont transformés, en fait, en ventouses évoluées, puisqu'il y a même des petites soupapes de sécurité. Il est doté d'une ceinture abdominale qui lui fournit une haute synthèse et puis des doses de nourriture. Et voilà, donc c'est là la première rencontre en fait imaginaire avec un représentant de la Terre et un martien. Et vous voyez que le martien lui-même est beaucoup plus grand. Cette fois, on a l'échelle. L'échelle nous est fournie par l'homme. Et donc ce martien est un martien en fait géant. Et il est grand parce que, encore une fois, sur Mars, la gravité est très faible. Voilà. Et puis, sur sa lancée, Frank Herpol, l'illustrateur, va lui aussi se lancer sur une tournée des planètes du système solaire. C'est une grande tradition maintenant. Et ça va donner lieu à différentes scènes assez extraordinaires qui se veulent un petit peu scientifiques. Par exemple, on a ici à droite le Mercurien, qui évidemment, de par la proximité de sa planète avec le Soleil, qui est carapaçonné à la façon d'un insecte ou d'un crustacé. Et on voit le Terrien tenter de lui expliquer quelle est son origine. Et puis, alors, on fait le tour de toutes les planètes, Saturne, Jupiter. Alors, on sait évidemment, on le savait à l'époque, que c'était des géantes gazeuses, donc difficile, en fait, de circuler à la surface. Sur Saturne, l'illustrateur a contourné le problème en faisant suspendre son explorateur par un filin, probablement sous son vaisseau spatial, attaché à son vaisseau spatial. Et puis, il a réussi à trouver une région de Jupiter sur laquelle il est possible apparemment de circuler et de dire bonjour aux Jupitériens. Voilà. Neptune, Uranus, les planètes les plus éloignées. Alors, je vous épargne Neptune, puisque Neptune n'est plus considérée comme une planète. Elle l'était à l'époque, en 1940. Et on voit que sur ces planètes très lointaines, sur Uranus, par exemple, eh bien, il y a extrêmement peu de lumière, donc peu de chaleur, et toute la vie doit, dans ces conditions extrêmement difficiles, se dérouler dans le sous-sol de la planète. Frank Herpol va continuer son exploration visuelle du système solaire. Il s'intéresse également aux satellites des géantes gazeuses à Titan. Donc, il a débarqué sur Titan quelques dizaines d'années avant qu'on y envoie la sonde Huygens, 64 ans, je crois, avant. Et il s'intéresse également à Europe, satellite de Jupiter. Et ce sont quelques-uns des endroits les plus intéressants maintenant du système solaire, considérés comme étant les plus intéressants, où il semble y avoir de l'eau liquide sous une épaisse banquise, où on imagine qu'il est encore possible de trouver d'infimes traces d'êtres vivants. Et puis, alors, Frank Herpol avait une formation d'architecte, et on le voit à l'image, il s'est bien sûr intéressé à l'architecture qui aurait pu se développer sur ces planètes, sur Uranus, sur Io, qui est un autre satellite galiléen. Et donc sur Uranus, on a vu que la vie se déroulait en profondeur, sous la surface. Et bien voilà cette cité qu'il appelle Metallis, qu'il nous décrit avec des effets de perspective et de couleurs assez intéressants. Et lorsqu'il a terminé la tournée du système solaire, et lorsque lui-même a essayé d'imaginer les différents habitants, il s'est demandé comment finalement, il s'est livré à un exercice intéressant, qu'il est à peu près un des seuls à s'y être intéressé au niveau graphique. Il s'est demandé comment les extraterrestres pourraient nous représenter. Et voilà un exercice de style intéressant où c'est en quelque sorte de l'anthropomorphisme au second degré. Il l'imagine en train de nous imaginer. Et donc, on voit les scientifiques martiens au bout d'un super télescope géant. Ils ont un iPad lui-même géant. Où la Terre est représentée, d'ailleurs dans une bonne configuration spatiale, puisqu'on y voit bien sûr le continent américain et le pôle Nord en bonne configuration. Et donc on a des artistes martiens qui imaginent le terrien, enfin plus exactement l'extra-martien. Il l'imagine bedonnant, puisque la nourriture semble être disponible à profusion sur cette planète. Il l'imagine également capable, grâce à des pattes palmées, de pouvoir évoluer facilement dans l'eau, puisque, il ne faut pas l'oublier, vu de l'espace, la Terre, c'est plutôt la mer. Et enfin, il s'est également intéressé, après Fontenelle et bien d'autres, il s'est intéressé aux exoplanètes. Il s'est demandé quelle pouvait être une civilisation qui serait sur une exoplanète, par exemple, qui graviterait autour d'un système binaire d'étoiles à gauche, donc des étoiles doubles, ou un système triple d'étoiles. Il s'est demandé quelle source d'énergie, là, apparemment, donc énergie solaire stellaire, pourrait être utilisée par ce type de civilisation. Et puis, on a parlé tout à l'heure des magazines populaires de science-fiction, les pulps. Eh bien, dans ces pulps, on a là aussi des illustrations haut en couleur qui évoquent, tout à l'heure c'était présenté dans le film, l'enlèvement extrêmement rare d'un extraterrestre. Généralement, c'est plutôt les extraterrestres qui nous enlèvent. Donc ça, c'est le motif qui est inversé. On a les soucoupes volantes qui font leur apparition avant de débarquer dans la réalité, qui font leur apparition dans les pulps de soucoupes volantes, dans les pulps de science-fiction. Et vous voyez ces soucoupes volantes en train d'enlever des buildings. Et puis également, on la voit mal, mais il y a une petite tour Eiffel dans le fond de l'image. Et donc les soucoupes volantes débarquent dans la réalité en 1947. Ça, c'est le premier témoin, Kenneth Arnold, qui a observé, alors qu'il était à bord de son avion personnel, 9 engins volants, qu'il a décrit non pas comme des soucoupes volantes, mais comme des espèces de croissants ou de galets resserrés. Et c'est le journaliste auquel il aura fait part de son observation qui va utiliser le terme de soucoupe que le témoin avait utilisé, non pas pour décrire la forme, mais pour décrire la trajectoire en fait de ces engins qui évoluaient exactement comme si on lançait des galets ou une soucoupe à la surface de l'eau, vous savez, ça ricochette. Voilà. Donc il y a eu une confusion de la part du journaliste et à partir de là, le terme de soucoupe volante va être utilisé et on va avoir une quantité impressionnante de personnes qui vont témoigner avoir vu les soucoupes volantes que finalement Kenneth Arnold n'a pas vu lui-même et n'a pas décrites lui-même. Donc quand je dis que ça arrive dans la réalité, c'est en tout cas dans le vécu des gens, puisque la plupart des gens qui font état d'observation sont des gens sincères, qui peuvent se tromper, qui voient dans des conditions particulières des choses qui ne s'expliquent pas et que l'on appelle à partir de 1947, que l'on qualifie du vocable de soucoupe volante. Voilà. Et à partir de là, donc, les observations vont se multiplier. On va même faire des photos. Là, vous avez une des rares photographies d'extraterrestres. Il s'agit bien sûr d'un trucage qui est reconstitué ici par la Tribuna Illustrata en Italie. Vous avez d'autres photographies, comme ici, d'un extraterrestre supposément entouré par des agents du FBI. Alors bien sûr, les extraterrestres eux-mêmes ne se privent pas, évidemment, pour nous photographier. Et ils envahissent en 1954 la France, c'est leur lieu de destination privilégié. Il y a des centaines d'observations avec débarquement de soucoupes volantes au sol. Ils envahissent la campagne, se posent sur les rails de la SNCF. Il y a un étrange comme ça, mélange de ruralité et de science-fiction. Et on a des milliers de personnes qui témoignent au cours de cet automne fantastique, qui témoignent d'observations de martiens, puisqu'on ne parlait toujours pas d'extraterrestres. Le terme lui-même n'est véritablement entré dans les mœurs, n'a été utilisé qu'à partir des années 60. Donc on parlait encore de martiens, alors qu'au 19e siècle, on parlait par exemple des habitants des autres mondes. Voilà, différentes dénominations pour qualifier ces extraterrestres que l'on a également qualifié plus tard de Little Green Men, de petits hommes verts. Les petits hommes verts sont issus de la science-fiction, venaient même auparavant du folklore pour qualifier des êtres surnaturels dans des récits pour enfants. Donc ils ont transité par la science-fiction pour se retrouver en fait dans l'ufologie pour qualifier certaines observations de soucoupes volantes. Et puis on a des images de toute nature, parfois très sympathiques, parfois un petit peu moins, comme ici dans la campagne anglaise où un père de famille photographie sa petite fille et puis au développement, l'histoire dit qu'il voit donc une espèce de cosmonaute qui n'était pas apparu dans la réalité, qui n'avait pas été vu. il y a tellement d'observations, une telle foison, une telle invasion d'extraterrestres que un journal va même parler de 6 millions d'extraterrestres sur la planète. C'est une véritable invasion. Pour terminer cette image d'un autre magazine de science-fiction où on propose de fabriquer soi-même son extraterrestre. Moi, si je pouvais, si un jour on pouvait poser une question aux extraterrestres, celle que j'aimerais leur, la première question que j'aimerais leur poser, ce serait de savoir en fait comment eux nous ont imaginés. Je trouve que ce serait assez intéressant de pouvoir comparer nos propres conceptions de l'extraterrestre avec les leurs, s'ils existent bien sûr. Voilà, merci pour votre attention. Il nous reste quelques minutes encore. Je pense qu'on peut peut-être prendre des questions. Si vous en avez, j'y répondrai en tout cas avec plaisir. Moi, j'y crois aux extraterrestres. Alors voilà, d'un point de vue plus scientifique, c'est très compliqué évidemment de répondre. C'est plus une question encore maintenant philosophique, même si de plus en plus on pense effectivement qu'il serait assez logique que la vie soit apparue sur d'autres exoplanètes, hein, puisque maintenant on les a découvertes. Hein. J'ai regardé ce matin, on est à 697 exoplanètes découvertes depuis 1995. Donc les découvertes se font à la vitesse grand V maintenant, et peut-être qu'on arrivera à trouver très bientôt des traces d'une activité biologique à la surface d'une planète. Ça paraît, dans quelques dizaines d'années, quelque chose qui soit dans le domaine du possible. Donc effectivement, la question c'était est-ce que j'y crois. Donc c'est toujours une question de croyance maintenant. Moi je pense que c'est possible, évidemment, parce que surtout devant le fait que l'univers en fait est infini, et donc on peut absolument pas prétendre que la vie n'existe pas. C'est plutôt comme ça qu'il faut, je crois, le montrer. Donc la vie me semble possible, mais probablement moins répandue que ce qu'on a pensé à une époque, parce que lorsqu'on s'intéresse aux conditions qui ont vu l'émergence de la vie sur Terre, eh bien on se rend compte que les conditions finalement sont toutes plus improbables les unes que les autres. Par exemple, pour ne prendre qu'un exemple, la vie ne semble pas avoir pu apparaître sur Terre s'il n'y avait pas eu la Lune. La Lune permet de stabiliser l'axe de la Terre, d'inclinaison de la Terre, qui est de 23 degrés, qui permet les saisons. Et c'est la Lune qui stabilise, de par l'attraction, son pouvoir d'attraction. La Lune, par rapport à la Terre, est assez grande. Est étrangement grande même, et donc c'est elle qui assure cette stabilité de l'inclinaison de la Terre qui permet les saisons et donc qui permet la vie. Et en plus, la Terre, semble-t-il, est due à une collision, il y a évidemment très longtemps, à l'époque de la formation de la Terre, est due à une collision avec un planétoïde de la taille de Mars, semble-t-il, et à un certain type de collision très particulier. Ce n'était pas une collision frontale qui aurait complètement détruit la Terre, mais une condition très particulière qui a donné naissance probablement à une sorte d'anneau autour de la Terre, dont les différents morceaux se sont... Il y a eu accrétion finalement de tous ces débris qui ont formé la Lune. Et ça, on l'a su quand les astronomes se sont posés sur la Lune en 69. On a ramassé quelques centaines d'échantillons du sol de la Lune, et on a pu voir que ça correspondait... ça avait la même caractéristique finalement, étrangement, que les roches terrestres, et ça on s'y attendait pas du tout. Et donc c'est ce scénario qui est privilégié maintenant. Donc si la vie est apparue sur Terre, elle le doit notamment, mais il y a de multiples autres conditions, à un accident tout à fait improbable et à un certain type de collision très précis avec un planétoïde géant qui a créé la Lune, qui a permis à la vie de prendre naissance sur notre planète. Donc je pense que les conditions sont quand même très particulière. Je pense que la vie n'a pas pu se développer dans toutes les planètes, dans toutes les exoplanètes. Et donc, la vie doit être possible, mais probablement moins fréquente que ce qu'on a pu le penser à une époque. Voilà. Si vous avez d'autres questions. Est-ce que moi, je peux vous en poser? Qu'est-ce que vous-même, vous pensez des extraterrestres? Est-ce qu'il y a des gens qui y croient? Est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Est-ce que... pour vous, est-ce qu'ils existent sur Terre? Quel est un petit peu votre... Est-ce que certains ont un avis sur la question? Qui croit aux extraterrestres dans la salle? Levez le doigt ceux qui croient aux extraterrestres. Ah, il y a quand même quelques personnes. Bon, ben c'est bien. Ben écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va laisser la place donc à la table ronde suivante. Merci pour votre attention en tous les cas. Au revoir.